Hier, les Israéliens étaient appelés aux urnes pour les élections locales. On vient de vous en parler largement dans le journal. Les élections locales, régionales et municipales. Des élections qui avaient déjà été repoussées par deux fois, on vous le disait encore hier, à cause de la guerre. Alors, quels sont ou quels étaient les enjeux de ce scrutin dans ce contexte si particulier? Daniel Haïk est analyste politique pour Even4 News. Et ma chère Lucie, il a répondu bien gentiment à toutes vos questions, ou presque.
Daniel Haïk, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes analyste politique sur i24 News. Alors, les élections municipales en Israël ont eu lieu aujourd'hui. Elles ont été reportées plusieurs fois en raison de la guerre. Et les élections semblent fortement influencées par le contexte sécuritaire d'Israël. Quelles pourraient être les répercussions sur les résultats électoraux?
Écoutez, il faut comprendre que en Israël, les élections municipales sont en général des élections qui n'ont pas de véritable influence ou d'impact sur le paysage politique israélien en général. En temps normal, hein, je ne parle pas en temps de guerre, mais en temps normal, ça n'a quasiment aucun impact parce que eh bien, le système est fait de telle sorte que, d'abord, en Israël, le pouvoir central est celui qui a le plus d'impact sur l'ensemble des Israéliens. Et en fait, le pouvoir local, les pouvoirs locaux sont souvent dépendants du pouvoir central. C'est-à-dire que les pouvoirs locaux, pour schématiser, sont quasiment entre les mains du ministère de l'Intérieur, qui est quasiment tout puissant par rapport aux pouvoirs locaux. Donc, les Israéliens comprennent qu'il y a là une problématique. Ça ne veut pas dire que les pouvoirs locaux sont totalement inexistants, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parmi les élus locaux des personnalités qui pourraient par la suite se dégager, on va dire, à l'échelon national, mais ça veut dire que pour beaucoup d'Israéliens, le pouvoir local se consacre à pour essence, on va dire, de s'occuper à la limite, dans le meilleur des cas, des problèmes de l'éducation nationale, souvent des problèmes de la voirie, souvent des problèmes qui sont liés à tous la problématique d'un pouvoir local dans les régimes occidentaux, et que ça n'a pas un impact sur le plan national. D'autant plus que il faut savoir que dans les grandes villes, on va parler des grandes villes parce qu'il y a les élections pour les conseils régionaux, les conseils municipaux et les mairies. Par exemple, dans les grandes villes, je peux vous donner l'exemple des trois principaux maires qui sont les maires de Tel Aviv, de Haïfa et de Jérusalem. Bien, ils ne représentent aucun des grands partis politiques qui sont connus dans la scène politique israélienne dans des situations extrêmes. Comme on en a vécu en Israël au cours des dernières années. La première a été le corona et la deuxième, c'est la guerre depuis 5 mois. Eh bien, on a vu des élus locaux qui se sont distingués, qui ont fait montre d'une forme de charisme et qui ont été présents là où le gouvernement était absent. Je pense par exemple à des maires comme Danilovitch, qui est le maire de Be'er-Sheva, une personnalité très forte. Chaim Bibas, qui est le maire de la ville de Modi'in, située entre Jérusalem et Tel Aviv, qui est, lui, par contre, membre du Likoud, mais qui est très populaire, même hors des cercles électoraux du Likoud. Et donc, on a vu des gens qui, par exemple, là où le gouvernement était absent, je pense en particulier le premier mois ou les 6 premières semaines de la guerre, le gouvernement était sous le choc. Ce sont les élus locaux qui ont utilisé, on va dire, leur petit pouvoir pour essayer de venir en aide aux populations qui étaient dans une situation aussi. On était tous dans un état de choc, de traumatisme après le 7 octobre. Bien, les élus locaux ont été les premiers à réagir. Ils ont été les premiers à mettre à la disposition du public des infrastructures qui leur manquaient et bien avant que le gouvernement ne, n'insufflent les budgets nécessaires pour s'occuper des écoles, des écoles qui étaient sous le feu des missiles, etc. J'espère que je m'explique bien. On est dans une situation avec ces élections où on voit à la fois des gens qui pourraient passer à l'échelon national, qui pourraient être des leaders sur le plan national, justement, hein, paradoxalement, justement parce qu'ils ne sont pas étiquetés politiquement, mais qui sont pour l'instant réduits à un rang de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires qui gèrent des mairies, des municipalités avec leurs problématiques bien spécifiques, telles que c'est le cas dans de multiples municipalités, en sachant qu'au-dessus d'eux, ils ont des ministres comme le ministre de l'Intérieur et au-dessus d'eux, le Premier ministre. Donc, il y a cette problématique difficile. C'est, par exemple, absolument impossible de tirer des enseignements lorsque les résultats vont tomber, bien de tirer des enseignements de ces élections et d'en faire une projection sur ce que vont être les prochaines élections législatives. Il y a beaucoup d'Israéliens qui voudraient voir peut-être un nouveau gouvernement après l'échec du 7 octobre. Bien, impossible de faire des projections par rapport à ce que vont être les résultats sur ce qui se passera à l'échelon national, à l'échelon des élections législatives pour la Knesset.
Je comprends que ces élections n'ont pas d'impact vraiment important sur ce qui va être la représentation nationale, mais le président Isaac Herzog a tout de même appelé les Israéliens aux urnes aujourd'hui et il a expliqué que les municipalités, les autorités et les conseils locaux étaient dans l'état d'urgence extrêmement important. Les Israéliens ont-ils réalisé l'importance de l'échelon municipal justement dans leur sécurité après le 7 octobre?
Eh bien, écoutez, d'abord, ça dépend des régions. Les Israéliens qui ont pu mesurer l'importance de leur secteur local, de leurs élus locaux, ce sont essentiellement les Israéliens qui ont été évacués. On va parler de 200 000 Israéliens qui ont été évacués au moment de la guerre dans le nord et dans le sud du pays. Je vous donne un exemple. Alon Davidi, qui est le maire de la ville de Sderot, se démène. Hein, depuis des mois pour gérer une population qui a été dispersée à travers tout le pays. Il y a des habitants de Sderot à Eilat, il y a des habitants de Sderot à Jérusalem, il y a des habitants de Sderot dans des hôtels à Jérusalem et dans d'autres hôtels à travers le pays. Et lui, il gère cette situation et tous les habitants de Sderot que j'ai entendus hein, ces derniers mois, depuis qu'ils ont été évacués, bien, rendent hommage au maire parce qu'ils ont le sentiment que le maire se bat pour eux. Qu'il va au-delà, qu'il frappe aux portes du gouvernement pour obtenir des avantages pour eux, que grâce à eux, c'est-à-dire que très rapidement, ce sont les élus locaux, par exemple, de ces localités ou de ces conseils régionaux qui sont allés frapper aux portes du gouvernement en disant, nous avons besoin de budget. Pour cela, pour recréer, par exemple, des infrastructures scolaires pour les enfants qui ont été déplacés. Ça demande une infrastructure. Il y a des écoles entières qui ont été déplacées de Sderot vers Eilat, de Sderot vers Jérusalem.
Alors maintenant, j'aimerais parler de la participation. Vers 15 h, elle était un peu plus faible que les élections précédentes. Quelles sont les causes de ce manque de motivation des Israéliens à aller vers les urnes? Est-ce que c'est le contexte sécuritaire qui fait ça et qu'ils ont peur?
Effectivement, une donnée qui confirme une sorte de désaveu, c'est qu'il y a, à 17 h heure israélienne, il y avait environ 31% de participation. C'est beaucoup moins qu'aux précédentes élections, il y a 5 ans et demi, où il y avait à cette même heure 40% de participation. Et oui, c'est effectivement le reflet, on va dire. Les Israéliens, en général, sont des êtres très civiques. Ils votent beaucoup à la Knesset, en général, même s'il y a eu une baisse ces dernières années à la suite des élections à répétition, des élections législatives à répétition autour de la personnalité de Benjamin Netanyahou. Mais là, effectivement, on peut dire qu'il y a d'autres préoccupations. La guerre se poursuit dans la bande de Gaza. L'incertitude, je peux penser, par exemple, aux réservistes qui sont pour certains rentrés il y a à peine 2 ou 3 semaines après avoir passé 3 ou 4 mois dans l'armée, dont au moins 2 mois dans Gaza. C'est vrai que ce n'est pas la préoccupation la plus importante. D'ailleurs, il faut avouer que même les équipes de campagne des candidats, eh bien, ont compris qu'ils n'avaient pas véritablement intérêt à dépenser de l'argent dans une campagne et que ça serait plutôt inutile. Il n'y a quasiment pas eu de campagne électorale, d'autant plus que il n'y a quasiment pas d'enjeu véritable. On a un peu le sentiment que ce sont les mêmes, qu'on ne change pas une équipe qui gagne, on va dire comme ça, et que ce sont les mêmes personnalités, en particulier dans les grandes villes, dans les plus petits conseils régionaux ou les conseils locaux, c'est un peu différent, mais dans les grandes villes, on a du mal à avoir de véritables changements qui puissent intervenir. Le même maire va rester à Jérusalem, probablement le même maire va rester à Tel Aviv, c'est Ron Huldaï. Et donc, quelque part, oui, il y a une forme de désaveu latent de la part de la population. On n'a pas tellement le cœur à ces élections et peut-être qu'il aurait fallu les reporter un petit peu plus. Allez, vous savez d'ailleurs que les habitants des 11 localités, enfin des 11 conseils régionaux du Nord et du Sud, eh bien, ne votent pas aujourd'hui. Ils ne voteront qu'en novembre prochain, c'est-à-dire un an après la date initiale.
Alors, ma dernière question, les autres grands absents de ces élections, ce sont les otages qui sont toujours détenus à Gaza, qui ne seront pas en mesure donc d'exprimer leur voix pour ce scrutin. Les familles des otages ont donc organisé une mobilisation significative devant les bureaux de vote. Comment cette action pourrait impacter le climat politique et peut-être remettre au goût du jour plus encore que ça ne l'est la question des otages dans le paysage politique?
Pour essayer de sensibiliser, c'est un des moyens de pression qu'elles exercent d'une certaine manière. Ça n'a pas véritablement d'impact. On est beaucoup plus loin dans les tractations. Et bon, vous le savez, il y a actuellement des négociations qui se déroulent, tant bien que mal, avec des difficultés, avec des hauts et des bas. Tout le monde pense aux otages, bien entendu, à ces 134 otages qui ne peuvent pas exprimer leur droit civique à ce niveau-là. Mais je suis allé voter. Il y avait, alors que je me souviens que lors des dernières élections en novembre 2022 pour la formation d'un gouvernement, pour les élections législatives du 1er novembre 2022, il y avait la queue. Là, il n'y avait personne. Donc, c'est pas scientifique, mais c'est peut-être le reflet véritablement de ce peu d'intérêt que manifestent aujourd'hui les Israéliens pour ce scrutin.
Eh bien, Daniel Aïk, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes analyste politique sur I24 News. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci à vous.